Chapitre 13 Les bêtes Versets 1 à 10 Citation de l'Écriture. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et ils rendirent hommage à la bête, disant, « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Fin de citation. Les 42 mois, ou 3 ans et demi du verset 5 du chapitre 13, indique clairement que les événements annoncés dans ce chapitre auront lieu au cours de la dernière demi-semaine des 70 semaines de Daniel, période précédant immédiatement l'apparition et le règne de Christ. Au chapitre précédent, nous avons vu que pendant cette période terrible, la méchanceté de l'homme atteindra son apogée, la grande puissance derrière tout ce mal étant le diable. Dans ce chapitre, nous voyons que les deux grands instruments du mal, utilisés par le diable et qui paraîtront devant le monde, sont symbolisés par 2 bêtes. La première bête représente clairement le pouvoir politique ou l'Empire romain ressuscité, trouvant son expression dans sa tête, versets 1 à 10. La seconde, une puissance religieuse, est sûrement l'Antichrist ou faux prophète. Versets 11 à 18. Verset 1. Dans cette vision, j'en vois la première bête sortir de la mer. La mer agitée est souvent utilisée comme symbole pour présenter les nations dans un état instable et de révolte. Nous voyons donc que d'un état d'anarchie et de confusion surgira une grande puissance impériale dont les caractères sont énoncés sous la figure d'une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La caractéristique exceptionnelle de ce pouvoir sera que, comme une bête, il agira au mépris total de Dieu. D'après la prophétie de Daniel 7, versets 7 et 8, et la nouvelle lumière donnée au chapitre 17, versets 8 à 13, nous pouvons déduire que cette bête représente l'Empire romain ressuscité. Les prophéties de Daniel, sous les figures de 4 bêtes, annoncent les 4 grands empires mondiaux qui exerceront le gouvernement au temps des gentils. Le premier était comparé à un lion, le second à un ours, le troisième à un léopard. Quant à la 4e bête, Daniel ne trouve rien dans la nature auquel elle puisse être comparée. Il la décrit comme étant effrayante et terrible et différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle. De plus, dit-il, elle avait 10 cornes. Dans notre chapitre 13, nous avons à nouveau une bête à 10 cornes, et dans le chapitre 17, cette bête à 10 cornes avec 7 têtes est reliée aux 7 montagnes. N'est-il pas clair que tous ces passages font référence à la même bête et que cette puissance impériale est l'Empire romain ressuscité avec son centre à Rome, la ville aux 7 collines. Sur les 7 têtes, Jean voit des noms de blasphème indiquant que ce dernier empire mondial non seulement ignorera Dieu, comme une bête, mais lui sera résolument hostile. De plus, la bête que voit Jean est comparée à un léopard, un ours et un lion. Il est donc clair que ce dernier empire mondial, au temps des gentils, rassemblera et combinera en lui-même tous les aspects malfaisants des trois premières puissances impériales. De plus, nous voyons que ce dernier empire aura une source satanique directe, car le pouvoir, son trône et son autorité viennent du dragon, que nous savons être depuis le chapitre précédent, le serpent ancien, le diable et Satan. Versets 3 et 4. Au chapitre 17, versets 9 et 10, nous apprenons que les sept têtes représentent non seulement sept montagnes, mais aussi sept rois ou formes de gouvernement. Jean voit l'une de ces têtes blessée à mort, indiquant sans doute la destruction du pouvoir impérial de Rome qui, historiquement, a conduit à l'éclatement de l'Empire romain, dont la puissance politique fut mondiale pendant de longs siècles. De notre passage et celui du chapitre 17, nous apprenons que cet empire ressurgira comme l'indique la blessure mortelle guérie. Cette réapparition étonnera le monde entier. Sa puissance incomparable, contre laquelle nulle autre puissance n'osera entrer en guerre, produira l'admiration de la terre entière. Cependant, louer et glorifier cet empire sera en réalité un culte au diable. Versets 5 à 7. Dans les versets qui suivent, nous pouvons voir les caractères exceptionnels de cet empire ressuscité, personnifié dans sa tête. Premièrement, le chef de cet empire, comme tout dictateur qui tente de gouverner le monde, cherchera avant tout à s'exalter et à se vanter, car il est dit qu'il aura une bouche qui profère de grandes choses. Deuxièmement, derrière la bouche qui se vante, il y aura un cœur qui hait Dieu, car il ouvrira sa bouche en blasphème contre Dieu. Troisièmement, celui qui hait Dieu s'opposera au peuple de Dieu, car nous lisons qu'il fera la guerre aux saints, et pour un temps très limité, il sera autorisé à les vaincre. Quatrièmement, pendant un certain temps, ce pouvoir terrible aura une emprise universelle sur les hommes, car le pouvoir lui sera donné sur toute tribu et peuple et langue et nation. Verset 8. L'effet terrible de ce pouvoir sur tous ceux qui habitent sur la terre est alors présenté. Ceux qui ont toutes leurs pensées et leurs désirs centrés sur la terre, cherchant à exclure totalement toute croyance en Dieu ou en un au-delà, seront ravis de trouver un leader tout-puissant qui s'oppose à Dieu et à ses saints. Ils adoreront volontiers cet instrument de Satan, prouvant, en fait, qu'ils ne sont pas du nombre de ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Versets 9 et 10. Un avertissement solennel suit. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si nous avons la foi pour croire en Dieu, prêtons attention à ce que Dieu dit. Celui qui conduit les autres en captivité finira par s'y retrouver lui-même. Celui qui tue avec l'épée finira lui-même avec violence en son temps. Cette assurance solennelle que le jugement finira par atteindre les méchants permet aux saints d'attendre avec patience et foi que Dieu s'en occupe et assure la bénédiction de son peuple persécuté. Versets 11 à 18. Citation de l'Écriture. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait deux cornes, semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent témoignage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Fin de citation. Dans les derniers versets du chapitre, Jean voit une deuxième bête sortir de la terre, qui présente une société ordonnée, contrairement à la première bête qui surgit de la mer, symbole d'une société dans un état de confusion et d'anarchie. Dans la vision, cette bête a deux cornes comme un agneau. N'est-ce pas la prétention de ressembler à Christ et donc de chercher à prendre une place de chef religieux, de même que la première bête prend une place de chef politique? Néanmoins, tout en ayant l'apparence d'un agneau, elle parle comme un dragon. Ce sera un instrument actif du diable, comme la première bête. En comparant la description de cette bête avec celle de l'homme de péché en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 12, on en conclut que les deux passages décrivent de la même façon la même personne, l'Antichrist annoncé par l'apôtre Jean comme devant apparaître à la fin des temps. 1 Jean 2, verset 18. Ce n'est que dans l'épître de Jean que l'Antichrist est mentionné par son nom. Là, son caractère est entièrement religieux. Il est présenté comme un apostat hérétique qui nie les vérités fondamentales quant aux personnes divines en rapport avec le judaïsme et le christianisme. Il nie que Jésus soit le Christ, l'attente du Juif, et il nie le Père et le Fils, la révélation spéciale du christianisme. La mention du temple en 2 Thessaloniciens 2 nous permet de dire que cette seconde bête, ou chef religieux, aura son siège à Jérusalem, tandis que la première bête, ou chef politique, aura son centre en Occident, dans la ville aux sept collines, Rome. Cette seconde bête, sous le pouvoir de Satan, utilisera son autorité pour amener ceux qui habitent sur la terre à n'avoir plus aucune crainte de Dieu, en exaltant l'homme en objet d'adoration. Ayant refusé Christ, ses habitants de la terre seront trompés par les miracles que cet homme aura le pouvoir d'accomplir. En conséquence, l'idolâtrie la plus grossière que le monde n'ait jamais connue sera établie dans la sphère même qui avait jadis la lumière du christianisme. La première bête, qui étonnera le monde en faisant revivre l'Empire romain, n'accomplira apparemment aucun miracle. Cette seconde bête, animée par Satan, accomplira de grands prodiges, allant même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Élie, en son temps, avait reçu de Dieu le pouvoir de faire descendre le feu du ciel pour témoigner du vrai Dieu et dénoncer l'adoration d'une idole. Ce qu'Élie a fait par la puissance de Dieu, l'Antichrist l'imitera par la puissance du diable, pour détourner du vrai Dieu et faire adorer une idole, l'image de la bête. Au temps d'Élie, le feu ayant dévoilé les idolâtres, les prophètes de Baal furent tués. 1 Roi 18, versets 36 à 40. Dans le jour à venir, le feu venant du ciel séduira les hommes pour adorer une idole, alors que ceux qui refuseront d'adorer l'image seront tués. Cet homme méchant revendiquera une autorité religieuse universelle sur tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Pour renforcer son autorité, il insistera pour qu'une soumission publique à la première bête soit visible par une marque publique, sur la main droite et sur le front, sans laquelle il sera humainement impossible d'exister, car sans cette marque personne ne pourra acheter ou vendre. Il ne semble y avoir aucune indication de la signification symbolique du nombre de la bête. Elle s'éclaircira sans doute le moment venu. En attendant, soyons gardés de tirer des déductions qui nous exposeraient à toutes les imaginations de l'esprit humain. Nous savons que le temps actuel est décrit par le Seigneur comme « les temps des nations » Luc 21, verset 24. La prophétie de Daniel, nous apprend que ces temps ont commencé quand le gouvernement du monde, pris aux Juifs tombés dans l'idolâtrie, a été placé entre les mains des gentils représentés par Nebuchadnezzar, à qui il a été dit « Le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire, et partout où habitent les fils des hommes, il t'a fait dominer sur eux tous. » Daniel 2, versets 37 et 38. Hélas, de même que les Juifs ont échoué, les gentils ont entièrement failli à répondre à la responsabilité qui leur était confiée par Dieu de gouverner le monde. Cet échec s'est manifesté dès le début, car, comme l'a dit quelqu'un, au lieu de se conduire humblement comme un homme devant Dieu, celui qui lui avait donné le pouvoir, d'une part Nebuchadnezzar s'est élevé, d'autre part il a ravagé le monde pour satisfaire sa volonté. Comme l'a fait le premier chef des gentils, au cours des siècles, dictateurs et démocrates ont eu divers types de gouvernements en rébellion contre Dieu et d'une impitoyable cruauté envers les hommes pour chercher à s'exalter et à se glorifier. Il a été relevé que, pendant des siècles, le monde a tenté de contrôler le mal et de redresser les torts, soit par des démocrates, soit par des dictateurs. D'un côté, les hommes trouvent que la démocratie est trop faible pour contrôler les passions des hommes, et, quand une confusion totale résulte du règne de démocrates qui ne contrôlent plus rien, les hommes cherchent un soulagement en se plaçant sous un dictateur, de même que la Révolution française a été suivie par l'arrivée au pouvoir de Napoléon. D'un autre côté, les nations trouvent rapidement que le règne de dictateur est trop strict et conduit à ce que les hommes soient privés de toute liberté. Cela mène à nouveau les nations à revenir à une démocratie extrême. Le fait est que ni les démocrates ni les dictateurs ne peuvent contrôler le pouvoir du mal qui agit en coulisses. Le diable est le prince de ce monde. Son pouvoir qui amène les hommes à se rebeller contre Dieu et à se détruire l'un l'autre par la guerre et la tyrannie est trop grand pour que l'homme puisse le contrôler par sa propre puissance. Il n'est donc pas étonnant que les hommes rendent l'âme de peur à cause de l'attente des choses qui viennent sur la terre, et qu'ils utilisent le proverbe « Après moi le déluge ». Mais, comme on l'a dit, ce n'est qu'une expression exagérée de leur suffisance et un aveu de leur impuissance à redresser les maux du monde. Ces deux solennels chapitres, 12 et 13 de l'Apocalypse, nous disent que les temps des gentils se termineront par la forme de dictature la plus terrible que le monde n'ait jamais connue. La chrétienté, après avoir apostasié, tombera dans une anarchie et une confusion totale dont les hommes chercheront à se soustraire en se soumettant à une puissance qui, bien qu'animée par Satan et blasphémant Dieu, pourra apparemment mettre fin aux guerres et sortir du chaos en ramenant l'ordre, car les hommes diront « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Ainsi, le temps des gentils se terminera par la même idolâtrie par laquelle il a commencé, mais sous une forme plus terrible. Comme Nebuchadnezzar a dressé sa statue d'or, devant laquelle tous devaient se prosterner et adorer, sous peine d'être jetés dans une fournaise ardente, de même, dans les derniers jours, tous ceux qui habitent sur la terre devront adorer l'image de la bête ou être tués. Les hommes rêvent d'un nouvel ordre, qu'ils espèrent amener par leurs propres efforts, et qui assurera un monde de paix et d'abondance. Mais, comme on l'a dit, au lieu d'espérer un progrès continu du bien, nous devons nous attendre à un progrès du mal. Nous avons à nous attendre à ce que le mal devienne si flagrant qu'il faudra que le Seigneur le juge. Le Nouveau Testament nous présente constamment que le mal ira croissant jusqu'à la fin, et que Satan poussera au mal jusqu'à ce que le Seigneur détruise sa puissance. Néanmoins, si terrible que soit la fin de ce présent siècle, le croyant peut l'envisager avec tranquillité et foi en Dieu en regardant vers la gloire qui se trouve au-delà. Dans le chapitre qui suit, nous apprendrons qu'il y en a un qui peut vaincre toute la puissance du mal, assurer la gloire de Dieu et amener son peuple dans la bénédiction promise. Nous y verrons le Fils de l'homme avec une couronne de victoire sur sa tête, et la faucille tranchante du jugement dans sa main.